RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans moins de 20 minutes et Israël à la une, le bras de fer engagé par Benjamin Netanyahou contre la Cour suprême qui a gelé hier le limogeage du patron des renseignements intérieurs voulu par le Premier ministre et son gouvernement. Le point avec Michel Paul à Jérusalem. À la une également, la journée mondiale de l'eau aujourd'hui, après la journée mondiale des glaciers hier. Quelles conséquences justement de la fonte des glaces sur les rivières de montagne? On en parlera avec Igor Strauss. Au sommaire d'ici là, la revue de presse internationale avec Catherine Potet et Israël qui menace désormais d'annexer des pans de territoire dans la bande de Gaza. Retour aussi sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie avec le regard de Jean-Baptiste Placa. Et tout de suite les sports. Bonjour Baptiste Leduc.
Bonjour Julien.
Le football d'abord avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique. Service minimum pour la RDC qui l'emporte 1-0 contre le Soudan du Sud.
Trois points mérités malgré tout pour les Léopards tant ils ont dominé cette rencontre. Le suspense a été ménagé jusqu'au bout par le gardien sud-soudanais Mawit, très en forme. Il n'aura cédé que face à Théo Bongonda juste avant la pause. Cette victoire replace la RDC dans ce groupe et le contenu a plutôt satisfait le sélectionneur des Congolais, Sébastien De Sabre. On l'écoute, il est au micro d'Olga Massangou.
Ce que je note, c'est toujours sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout le nombre d'occasions qu'on se crée. C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de ressentir un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande satisfaction parce qu'on prend 3 points, on prend pas de but, on a vu un système de jeu qui était efficace et ça donne quand même pas mal de possibilités pour les autres rencontres.
Le prochain match des Léopards, ce sera mardi contre la Mauritanie à Ouagadougou.
Dans le groupe I, succès 1-0 également de la Côte d'Ivoire, toujours invaincu dans ses éliminatoires.
Les éléphants sont venus à bout du Burundi, un but du Niçois Evan Guessan à la 16e minute de jeu qui permet aux Ivoiriens de s'imposer et repasser en tête devant le Gabon. Joie toute particulière pour Evan Guessan qui a inscrit son tout premier but en sélection. Sa réaction au micro de Molamine Sissavané.
Chaque match, j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir aider l'équipe. Si c'est en marquant, c'est avec plaisir. Si c'est en faisant marquer, tant mieux. Si c'est en défendant, en sauvant un but, je le fais avec plaisir. Voilà, quand on porte ce maillot, je pense qu'il faut tout donner. Et j'ai pas de difficulté à jouer avec de tels bons joueurs. Après, c'est sûr que en tant que joueur offensif, j'ai forcément envie d'aider mon équipe. Aujourd'hui, c'est chose faite et je suis très content parce qu'on avait besoin de ces 3 points. Forcément, à ce niveau-là, chaque équipe te pose des problèmes. À nous de les résoudre pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, ce soir, je pense qu'il faut juste savourer la victoire parce qu'elle est très importante. Si on avait perdu, ça aurait été une autre histoire. Mais là, on est premier. On va regarder le positif, je pense.
Prochaine rencontre des éléphants. Lundi, ce sera à domicile à Abidjan contre la Gambie.
Et en revanche, les Guinéens, eux, peuvent s'en vouloir, Baptiste. Ils ont laissé filer 2 points contre la Somalie, pourtant largement à leur portée.
Effectivement, Julien, match nul 0-0, vierge de but, mais pas de regret pour le Sili National. 15 tirs cadrés, plusieurs montants touchés, mais à l'arrivée, aucun but marqué. Contre des Somaliens, 202e au classement FIFA et qui avaient jusqu'ici perdu tous leurs matchs. Le sélectionneur de la Guinée, Michel Dussuyer, très lucide après le match sur ce qui a manqué à son équipe.
Il y a toujours deux R, réalisme et réussite. Quand les deux font défaut, on obtient ce résultat-là. Ça fait partie de ces matchs qui sont cruels en fait. Vous avez le gardien qui fait un match extraordinaire, vous avez les poteaux. On n'a pas la réussite pour nous, mais on n'a pas eu aussi le réalisme, c'est-à-dire l'efficacité dans la surface de réparation, avec peut-être un manque encore de justesse ou d'agressivité dans le dernier geste pour faire une différence. L'objectif, évidemment, c'était de prendre les 3 points. On n'y est pas arrivé et forcément la déception, elle est énorme.
La Guinée, 3e avec 7 points, laisse filer l'Algérie et le Mozambique en tête avec 12 unités. Le Sili ira en Ouganda mardi pour la 6e journée de ses éliminatoires.
Baptiste Leduc, merci. On vous retrouve dans une demi-heure et on parlera notamment de la mort de George Foreman, la légende de la boxe. À tout à l'heure. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale avec vous et à la une, les nouvelles menaces du gouvernement israélien.
Israël va s'emparer de plus de territoires et avertit le Hamas qu'il annexera une partie de Gaza. Ces menaces du ministre israélien de la Défense sont ce matin à la une du Guardian. Avertissement lancé donc par Israël Katz qui a également ajouté « Plus le Hamas refusera de libérer les otages, plus il perdra de territoire qui sera annexé par Israël ». Propos tenu alors que, nous dit le quotidien britannique, les troupes israéliennes, après avoir repris une partie du corridor stratégique de Netzarim, qui divise le nord et le sud de Gaza, ont avancé vers la ville de Beit Laïa au nord et vers la ville frontière de Rafah au sud. Depuis la nouvelle offensive d'Israël lancée mardi, les attaques sont ininterrompues pendant la nuit dans une grande partie de Gaza, ajoute The Guardian, qui a pu joindre un travailleur humanitaire basé sur place, lequel raconte les bombardements. Ces jours et nuits, dit-il, drones, avions, artillerie, chars, tout le temps, c'est pire que jamais.
Le journal israélien Haaretz pense lui aussi que le gouvernement israélien prépare une offensive d'envergure.
Israël se prépare à occuper Gaza et à contrôler totalement la population palestinienne, écrit le journal d'opposition. En attendant les dernières nouvelles des négociations avec le Hamas, des préparatifs sont en cours pour une opération d'envergure visant à occuper Gaza. Et pour ce faire, estime Haaretz, le gouvernement israélien peut compter sur un soutien de poids. Donald Trump, qui semble prêt à soutenir Netanyahou s'il décide de lancer une opération terrestre à grande échelle après les frappes aériennes massives de cette semaine qui ont tué plusieurs centaines de Palestiniens. Les familles des otages israéliens, ajoute Haaretz, sont profondément préoccupées par les derniers développements.
Dans le même temps, d'anciens otages israéliens commencent à parler de leur captivité.
C'est à la une du Figaro, les anciens otages du Hamas témoignent pour sauver ceux qui sont restés derrière, titre le quotidien français. En Israël, ils sont appelés les survivants. Malgré les épreuves qu'ils ont traversées, certains trouvent la force de descendre dans l'arène, sitôt la liberté retrouvée. Ils se joignent à tous les Israéliens qui, depuis le début de la guerre, manifestent pour la libération des otages, explique le Figaro. C'est le cas d'Eli Sharabi, 53 ans, 491 jours de captivité dans les tunnels du Hamas. « Je reviens de l'enfer », raconte-t-il. Eli Sharabi a témoigné cette semaine devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, évoquant Alon, un autre otage israélien. « À l'heure où je vous parle, il est enfermé sous la terre, seul face à des terroristes. Il ne sait pas s'il reverra sa mère, son père, sa famille. Je ne le laisserai pas derrière moi. Ramenez-les tous à la maison, maintenant. »
Enfin, Catherine, la disparition de George Foreman suscite des réactions dans le monde entier.
Et tout d'abord, bien sûr, dans son pays, les États-Unis. George Foreman, champion de boxe et magnat du barbecue, décède à 76 ans, titre le New York Times, qui résume ainsi la vie du boxeur. Il a remporté un titre mondial à 20 ans, un autre à 40 ans, puis il a utilisé sa renommée et son caractère sympathique pour créer une entreprise de grillade valant plusieurs millions de dollars. Le Monde pleure l'ancien champion du monde, titre de son côté La Nation, le journal argentin qui se souvient de son emblématique combat contre Muhammad Ali. En France, Le Monde rappelle qu'effectivement, George Foreman reste associé au combat du siècle de 1974 face à Muhammad Ali à Kinshasa, au cours duquel il perdit devant 100 000 spectateurs son titre de champion du monde des lourds.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup.
RFI Matin.
Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont donc choisi la semaine du 55e anniversaire de la francophonie pour annoncer leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle n'a certes pas eu un fort retentissement, mais cette décision ne constitue-t-elle pas malgré tout un coup dur pour l'OIF ?
Pour marquer une telle commémoration, ils auraient pu espérer une nouvelle plus réjouissante. Peut-être ces États espéraient-ils un retentissement d'importance en démissionnant ainsi en chœur. Mais dans sa cruauté, l'actualité a fait tomber leur décision à plat en braquant ses projecteurs sur Kagame et Tshisekedi à Doha au Qatar. Il n'empêche, plus que jamais, l'utilité de l'OIF est source de questionnement dans une Afrique où son rayonnement déclinait déjà passablement. Va-t-elle continuer à feindre l'indifférence ou se repenser pour inspirer à nouveau confiance à des populations qui ont perdu toute illusion sur ce qu'elle est? Vous souvenez-vous de la secrétaire générale déclinant lors du dernier sommet tout ce que n'est pas la francophonie? Peut-être que l'OIF serait plus convaincante si elle se contentait juste d'être ce qu'elle prétend être. À mener une politique qui prête trop souvent à confusion, elle en vient à se voir prêter des défauts qui ne sont théoriquement pas les siens. Comme lorsque cet auditeur, dans Appel sur l'actualité, sur RFI, soutient que le but de la francophonie est de promouvoir la culture française. Ce malentendu s'entraperçoit dans la décision de retrait des trois sortants. À l'évidence, il semble certain de faire du tort à la France en quittant la francophonie, alors que dans les faits, leur départ n'affecte pas plus la France que la Belgique, la Suisse ou le Canada.
N'y aurait-il pas de perdant, Jean-Baptiste ? Ce départ n'aurait-il aucun effet pour la France ?
Dans cette rupture, les seuls perdants possibles sont probablement les citoyens ou organismes de ces trois pays qui vont devoir désormais se passer des petites subventions saupoudrées sur eux par la francophonie. Certes, au fil des décennies, certaines attitudes ou décisions ont pu conforter une partie de l'opinion dans la certitude que l'OIF servait à l'occasion de variables d'ajustement à la diplomatie française. Ainsi, lorsqu'en dépit du soutien de Paris, Boutros-Ghali, poussé vers la sortie par la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, a échoué à obtenir un second mandat comme secrétaire général des Nations Unies, Jacques Chirac, le chef de l'État français, lui a offert comme lot de consolation le secrétariat général de l'OIF, comme il l'offrira en 2002 au président Abdou Diouf, qui avait entre-temps perdu le pouvoir au Sénégal. Même le choix de l'actuel secrétaire général a été perçu comme un moyen pour la France de sceller des relations enfin apaisées avec le président Kagame, intraitable jusqu'alors en raison du génocide. Mais le fait pour la France de tirer avantage diplomatique de son poids dans l'OIF ne rend pas illégitime l'application au régime putschiste des sanctions prévues par les textes. D'ailleurs, au Commonwealth, pendant anglophone de la francophonie, les États membres réunis par la langue, l'histoire, la culture se revendiquent tous de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit, même si leur charte précise que ces États n'ont aucune obligation les uns envers les autres et que l'intitulé du Commonwealth, littéralement « prospérité partagée », insiste sur la notion de partenaires libres et égaux qu'ils sont.
Qu'est-ce qui pose donc problème finalement avec l'OIF ?
Sans doute cette capacité à trouver des excuses à certains putschistes tout en tenant d'autres à distance. Ces contorsions pour trouver des évolutions positives en Guinée, alors que les méthodes du général Doumbouya sont à peine différentes de celles de ses homologues burkinabés, nigériens et maliens, tant de discrédit enlève à quiconque l'envie de plaider la cause de l'OIF lorsque, d'un coup, trois de ses membres l'abandonnent. Quant à la langue française, elle n'appartient plus depuis bien longtemps à la seule France. Se proclamer francophone, pour nombre d'Africains, n'est qu'une commodité. Ils sont aussi anglophones, lusophones et, comme dirait l'Ougandais Yoweri Museveni, bantoufones.
Jean-Baptiste Placard, merci beaucoup. Bientôt 6h en temps universel et dans l'actualité ce matin, la mort d'un géant à la une. L'un des plus grands boxeurs de l'histoire du noble art, George Foreman, s'est éteint cette nuit. À 76 ans, médaillé olympique, plusieurs fois champion du monde, il restera une figure de l'histoire des poids lourds, mais aussi le perdant malheureux du combat le plus mythique de l'histoire de la boxe.
George Foreman, Muhammad Ali has done it.
Le 30 octobre 1974 à Kinshasa, la défaite sur le ring de George Foreman, pourtant favori, mis KO par Mohamed Ali au 8e round du combat du siècle, le Rumble in the Jungle. C'est aussi le titre du morceau des Fugees sorti en 1997. Bates than Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus Foreman. God's act, stand back and watch. Devil's time out, can't be time with no swatch. Watch who I am, the Black Abraham. Zungo, Zungo, Zang, Yellow Man, Vietnam.
Adding extra bars, I spar with little chores, taking kingdoms from czars, winning more wars than the Moors.
Now what the deal, star? I've seen the devil spar with the law. Mathematics was the key to set my whole race free. You might debate we, a refugee, no harm hurt me. Dying thirsty from the struggle till my own hustle bubble on the low. What was me to show the free bar right? The righteous Asiatic thinker while Shaitan robbed light. Civilized like the Molly Burgundy. Wally rockin', seen the fifth when Ali clocked him. John Forte, you'll keep you locked in.
People all around, you got to recognize and witness this mister who's swift enough to knock you out with Mike Fitness. Hands blister from holding mics tight. Some say it's fight night. We'll throw the R after the F, cause I'ma take away your breath. The bell rings, and now it's just a daily operation. Yo, you soft like lubrication. You can't see this occupation. But when I'm, and you know we hail from Q, Burrow, L. Brooks, and Cluster Trainers, Croswell, promoted
Thurl. We used to fight the bullets with the pigskin cases. Now we perfect slang like again the street mason. Scribe checks, make the next true pyramid architect. Replace the last name with the X. The man's got a God complex. But take the text, change the picture. Watch Muhammad play the messenger like holy Muslim scripture. Take orders from only God, only war. When it's jihad, see Ali appears in Zaire to reconnect 400 years. So we the people, dark but equal, give love and such things.
Rumble in the Jungle, les Fugees, et un hommage à la légende de la boxe George Foreman, décédé cette nuit aux États-Unis. 20 ans après son combat perdu contre Mohamed Ali, il était revenu sur les rings dans les années 90 pour devenir le champion du monde le plus âgé de l'histoire de la boxe poids lourd. Bientôt, 7h, à Paris, le journal dans une minute.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
En période de vache maigre budgétaire, les États ont besoin de nos impôts pour financer leurs projets et redistribuer les richesses. Faut-il taxer les contribuables ou alors davantage les entreprises ? Est-ce la grande revanche de la fiscalité ? On en parle avec nos invités à l'occasion du printemps de l'économie à Paris.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Après Radio Foot International toute la semaine, Mondial Sport le week-end. 50 minutes ensemble pour partir à la découverte de nombreuses disciplines aux quatre coins du globe. Invités, reportages, débats, discussions, découvertes. Rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches sur la radio du monde à 16h10, temps universel.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI Pure Radio.